Voilà, nous allons. Enfin, je vais commencer avec une petite. Je vais me mettre assis pour que soyez plus à l'aise dans votre position siestesque. Je ne vais pas réveiller ceux qui sont déjà partis. Voilà, je vais juste lire sur la suggestion tout à fait pertinente du même Père Clément la collecte du commun des martyrs, enfin une des collectes. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à tes saints martyrs la grâce de souffrir pour le Christ. Accorde aussi ton secours à notre fragilité, afin qu'en imitant ces martyrs qui n'ont pas hésité à mourir pour toi, nous ayons le courage de vivre en confessant ton nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Notre-Dame des Mètes, priez pour nous. Je ne sais pas si elle existe, mais... Ah, la Vierge Marie est la mère. Alors, voilà. Alors, bon, je passe sur le fait que je suis très impressionné de prendre la parole après Jean Guilherme, etc. Voilà, ce qui est vrai. Mais voilà, je plaide pas coupable, j'entre direct dans le vif. Alors, savez-vous qu'on a donné aux missions étrangères de Paris ce titre mérité au fil des siècles de Société des Martyrs. Société des Martyrs, de fait, quand on regarde la proportion d'entre eux qui ont eu à subir le martyr en haine du Christ, enfin la persécution en haine du Christ, eh bien cette proportion-là est bien plus large que les 23 saints et les 6 bienheureux qui font l'honneur de cette communauté. Nous allons entrer dans la salle des martyrs tout à l'heure, vous verrez pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore combien cette pièce est émouvante, parce qu'elle recèle des effets personnels, des courriers, adressés à leurs confrères, à leur famille, c'est vraiment très beau. Certains ayant pu faire parvenir des courriers alors même qu'ils savaient leur mort imminente parce qu'ils étaient en captivité. Des outils de torture, ça calme, et toute autre joyeuseté, voilà, qui témoignaient de leur quotidien lorsqu'ils, à partir du moment où ils mettaient le pied au Levant pour annoncer Jésus-Christ. Alors, certains pourraient peut-être considérer que c'est un peu une collection macabre, que franchement, bon, on n'a pas besoin de tout ça, on imagine bien, ça va. Même quand on a lu les évangiles et surtout les actes des apôtres, on se doute bien, pas besoin d'avoir la 3D, si vous voulez. Alors, à ceux qui penseraient cela, que c'est vraiment macabre, Louis Veuillot, qui est le grand journaliste et polémiste catholique de la fin du 19e que l'on sait, répond ceci, enfin, il qualifie ce lieu, après qu'il est venu en pèlerinage dans celui-ci, de, je cite, « source intarissable ».« Source intarissable ». C'est évidemment une expression qui rejoint celle de Tertullien, que vous connaissez tous. Hein. Le sang des martyrs est la semence des chrétiens. Source intarissable. Alors, voilà plus exactement ce que... Je vais me lever parce que sinon c'est moi qui vais m'endormir. Voilà ce qu'écrit plus largement Veuillot. En réalité, il dit... Ceci, deux sources intarissables sont ouvertes ici. Il parle du lieu où nous nous trouvons, aux missions étrangères. L'une est à la chapelle, l'humble temps du Dieu vivant, où l'on immole tous les jours la victime qui ôte les péchés du monde. Et l'autre est la chambre des martyrs, la salle dans laquelle nous allons pénétrer tout à l'heure, où l'on garde les reliques des membres de la communauté qui ont confessé Dieu par la perte de leur vie. Et je trouve quand il y a ces quelques mots apparemment anodins, en fait tout à fait significatif. Il fait un lien, selon Veuillot, entre la salle des martyrs et la chapelle. Autrement dit, le sort des martyrs ne peut se comprendre que en relation étroite avec le sort de Jésus-Christ. Voilà, on s'en doute, mais c'est bon de se le redire. Voilà. Pour ne pas être focalisé uniquement sur tout ce qu'on va observer en fait, d'outils de torture et autres... Voilà. Il faut toujours, je pense, prendre de la hauteur. Quoi. Les martyrs, en effet, le lien avec Jésus-Christ, n'ont rien des héros. Cette catégorie des surhommes qui peuplent les mythologies diverses, qui sont dotés de forces extraordinaires, qui leur permettent de se dresser régulièrement contre le fatum, contre le sort, et parfois même d'en infléchir le cours. À ce sujet, Georges Bernanos a des phrases tout à fait magnifiques, je trouve, dans une conférence qu'il a donnée en 1947 à des religieuses, dont je vous recommande vivement la lecture, d'autant que c'est une conférence qui est courte, qui s'appelle « Nos amis les saints ». 1947, « Nos amis les saints ». Et alors, il évoque les saints en général, mais ça concerne a fortiori les martyrs. Je le cite, « Les saints ne sont pas des surhommes, puisqu'ils sont les plus humains des humains. Les saints ne sont pas sublimes, ils n'ont aucunement besoin du sublime. C'est plutôt le sublime qui aurait besoin d'eux. Les saints ne sont pas des héros. Un héros nous donne l'illusion de dépasser l'humanité. Le saint, lui, ne la dépasse pas, il l'assume. Il s'efforce de la réaliser le mieux possible. Comprenez-vous la différence ? Il s'efforce d'approcher le plus près possible de son modèle, Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui a été parfaitement homme, avec une simplicité parfaite, au point précisément de déconcerter les héros. » Fin de citation. C'est beau, hein ?
Oui.
Bon, il faut te dire, Malos. Bon, en fait, c'est de moi, mais bon. Voilà, c'est pour ce passage tout à fait enfin, très beau. Le martyr, en somme, qui n'est ni surhomme ni héros, se sait fragile. D'abord, il a lu patiemment les évangiles, et vous savez qu'ici, c'est le lieu de formation des missions étrangères. Ils ont 7 ans, 8 ans, 9 ans parfois, pour bien méditer ce qui risque de les attendre quand ils posent le pied au Levant. Alors, on dira qu'aujourd'hui, les persécutions sont moindres, etc. Ben, demandez-leur, vous allez voir que ça tombe encore. Voilà. Et donc, il médite les évangiles, et que voit-il dedans où, les actes des apôtres, et il découvre que Simon-Pierre, que Thomas, qui sont un peu les fiers à bras du collège des apôtres, eh bien, sont tombés, ont trahi, quand la mort, après leur belle promesse, s'est approchée un peu trop près d'eux, du moins dans un premier temps. Et on leur mettait ça bien profondément ancré dans la tête et surtout dans le cœur. Mes amis, n'allez pas là-bas avec la conviction complètement erronée que vous allez y arriver. Vos devanciers ont faibli, un certain nombre d'entre eux ont apostasié, donc ils ont renié leur foi. N'ayez aucun jugement à leur égard, vous ne savez pas de quoi demain est fait et vous ne savez jamais, même si vous êtes aguerri, comment vous réagirez dans ces circonstances. Donc ils sont, voilà, ils se savent fragiles. Voilà ce que dit Bernanos, toujours dans ce même texte très beau, Nos amis les saints. Il serait plus exact de dire que le saint est l'homme qui s'est trouvé en lui, faire jaillir des profondeurs de son être l'eau dont le Christ parlait à la Samaritaine. Ceux qui en boivent n'auront jamais soif. C'est assez beau. Se sachant fragile, néanmoins, le martyr conçoit que au fond de lui se trouve un puits et qu'au fond de ce puits se trouve l'eau de vie. Alors, pas l'eau de vie, vous voyez ce que je veux dire, à l'heure du coup, ce qu'elle fait, voilà, mais voilà. Et donc, ils se savent simples créatures, mais en même temps, ils savent qu'au très fond de leur être se trouve le Christ. Voilà. Et ils peuvent dire avec saint Paul, mais comme chacun d'entre nous peut le dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Qui permet à saint Paul de dire, un peu plus loin, j'achève en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Voilà. Donc on a cette humilité et comment du martyr, qui néanmoins se sait fort de ce puits qui est en lui et de ce Jésus qui habite ce puits. Si le martyr tient bon, alors donc voilà, on le comprend, il n'y a aucune présomption. On a des exemples très touchants de très grandes figures de sainteté qui se sont d'abord un peu égarées à cet égard. Je pense aux apôtres, évidemment, d'une part, que j'ai déjà cité, non ? Tiens, Seigneur, je te suivrai, tu sais, j'allais souffrir avec toi, mourir en prison, blablabla. D'accord. On sait ce qui s'est passé par la suite. Donc, du coup, il n'y a pas à pâlir. Si les colonnes de l'Église imaginent la sorte, bon, ceux que je vais citer, qui sont quand même de grands saints, ne vous scandalisez pas s'ils vous disent qu'ils ont été un tout petit peu présomptueux. Je pense à saint François d'Assise, qui est parti au Moyen-Orient, face aux Mahométans, espérant bien pouvoir honorer son maître du sacrifice de sanglant. Rien de tout cela n'est advenu. Bon, il a été stigmatisé. Une sorte de l'autre consolation. Enfin, pardonnez-moi, c'est impropre, mais voilà. Mais au moins, ça fait son effet. Alors, on a un peu plus proche de nous, sainte Thérèse d'Avila, qui n'était pas encore sainte Thérèse d'Avila, et son petit frère, qui, vous savez, quitte la ville d'Avila sans rien dire à personne, surtout pas à leurs parents, parce qu'ils savaient très bien ce qui leur arriverait sinon, pour aller au sud de la péninsule se faire fracasser par les mêmes mahométans. Bon. Heureusement, leur chemin a croisé celui de leur oncle, qui, je pense, a fait une petite fessée, les a ramenés au domicile paternel, et c'en a été fini de leur résolution de finir martyr. Et on voit comment Thérèse a honoré le nom de Jésus et toute l'Église bien autrement, et sans doute plus efficacement. Vous voyez, vous avez peut-être vu ce film somptueux, mais assez discutable, Silence, Silence de Scorsese, qui est sorti il y a quelques années maintenant, qui est alors au plan cinématographique, au plan plastique, de toute beauté. Le drame est très bien rendu, il s'agit des martyrs de Nagasaki. Voilà, et le provincial des jésuites d'alors, après avoir soutenu tant et tant ses pauvres confrères et fils, et puis les laïcs et les autochtones aussi qui se faisaient crucifier, toute chose avérée, hein, a lui-même apostasié en fait. Et alors le film est un peu glauque à cet égard, parce que on ne sait pas très, très, très réaliste, mais en fait, à la fin, il a pris femme, etc. Cet homme-là, l'histoire nous enseigne qu'en fait, il est revenu à la fidélité à la foi catholique et à son sacerdoce. Et ça, je trouve, c'est pas très honnête de la part de Scorsese de ne pas nous montrer la fin, quoi. Voilà. Ensuite, donc, le général des jésuites envoie sur place deux jeunes jésuites tout frais émoulus de l'école, comme on imagine certains missionnaires des missions étrangères partir, un peu casoir régant blanc, j'allais dire, voilà. Et puis faire la croix, voilà, tout la soutane bien-être, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Descendant de la colline de Saint-Cloud, prenant la ligne 10 pour aller jusqu'ici, enfin, voilà. Et un peu l'enfer. Et voilà. Et néanmoins, arrivé de l'autre côté, donc ces deux bons hommes, en fait, doivent rejoindre tout de suite l'église clandestine. L'un des deux est un peu. Alors le but, c'est envoyé par le général pour enquêter sur le fait avéré ou non que le provincial a trahi, sachant que ça a été leur vénéré père, maître des novices, lorsqu'ils étaient novices. Et alors, il y en a un des deux qui a un gros fier à bras, qui s'attend à pouvoir s'exposer à toutes sortes de tortures sans trop faillir, et l'autre qui est extrêmement humble, qui est tétanisé parfois. Et celui qui est sûr de lui a le toupet de dire à l'autre, « Non mais vous, décidément, vous n'êtes pas fait pour être jésuite. Non mais vous avez peur, dès qu'il y a une feuille qui bouge, ça va pas du tout, quoi. Vous n'êtes pas prêt. » Eh bien, évidemment, grosse leçon de l'histoire, ou plutôt de la grâce, c'est celui qui croyait ne pas défaillir qui est apostasie finalement, et l'autre finit crucifié, martyr. Bref, film mais vraiment très beau. Et je me suis renseigné, et ça relate assez fidèlement, on dit des missionnaires, l'histoire avérée des missions. Alors bref, donc ça c'est pas de ça chez nous, il ne faut pas y aller en étant convaincu que, voilà. Il se sait faible, il se sait en même temps habité par Jésus-Christ, et il est, surtout il a comme moteur le martyr, il sait en qui il a mis sa confiance, comme dit saint Paul, dans la deuxième à Timothée, et il a comme moteur l'espérance. Voilà. C'est bon, on y vient enfin. Nous sommes bien dans le cadre de l'espérance. C'est bien la récollection pour la retraite de la paroisse de Saint-Cloud. Voilà. Or, vous connaissez comme moi ces magnifiques lignes de Peggy, mais que je ne vais pas priver de reprendre ici, qui est le chantre inspiré de l'espérance, qui dit très bien ce qui habite, enfin, le caractère improbable en fait de l'espérance. Une petite fille de rien du tout, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, il dit, hein, la foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi que j'aime le mieux, c'est... La foi, ça ne m'étonne pas. J'éclate tellement dans ma création. C'est vrai, il faut être un peu un occidental tordu pour ne pas se dire, dis donc, tout ce truc-là, incroyable. Ensuite, la charité, ça ne m'étonne pas. Ces pauvres créatures sont tellement malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles pas de charité les unes pour les autres ? Tant soit peu. Mais l'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne. Moi-même, ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain, ça ira mieux. Ça, c'est étonnant et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Et j'en suis étonné moi-même. Et il faut que ma grâce soit en effet d'une force incroyable et qu'elle coule d'une source comme un fleuve inépuisable. On retrouve la source de Bermanos, le puits, la présence du Christ. Voilà. Que ne faut-il que soit ma grâce et la force de ma grâce pour que cette petite espérance, vacillante au souffle du péché, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure, invincible, immortelle et impossible à éteindre. Voilà. Donc, et c'est Dieu lui-même de dire que la nature de l'espérance est une grâce. Et c'est même la plus merveilleuse de ces grâces, à l'en croire, du moins selon les paroles que lui prête Peggy. Alors, cette grâce-là, de l'espérance, on l'a abondamment envisagée cette année, et d'autres personnes bien plus compétentes que moi l'ont fait. Je ne voudrais pas faire un traité de l'espérance, ça n'est pas du tout le lieu, mais apporter, enfin, ou plutôt donner un regard voilà, complémentaire ou qui reprend des choses de ce qui a été vu cette année. L'espérance, c'est cette grâce qui vient éclairer notre intelligence d'abord, qui lui fait voir à cette intelligence, qui lui fait jeter un regard sur la croix, sur Jésus crucifié, un regard pénétrant, un regard, j'allais dire, extra-lucide. Et l'intelligence, ça vient du latin intus legere, lire de l'intérieur, lire en profondeur. Quand je regarde la croix, spontanément, je me dis, mais quel échec. Non, mais franchement, il n'a pas manqué de païens dans l'Antiquité pour se foutre éperdument de cette religion qui faisait du gars qui meurt en croix sanguinolent un vainqueur, le fils de Dieu, voilà. Quand on comparait à Mars, Jupiter, à qui vous voulez, écoutez, franchement, de respect, quoi. Et oui. Et il en va de même pour le martyr. Quand il voit mourir ses devanciers, il se dit probablement, mais c'est l'échec. On a complètement foiré notre mission, là. Les missions étrangères ont été particulièrement éprouvées. Parce qu'ils ont dû, d'autres aussi, bien sûr, les jésuites, les franciscains, qui voulaient, mais les maîtres particulièrement, ont connu des revers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont spécialisés dans les missions au Levant, les missions en Extrême-Orient. Les missions aux Amériques n'ont pas connu les mêmes revers de fortune, parce qu'ils sont arrivés dans les cales des conquistadors. Forcément, et même si ensuite ils ont défendu qu'on usât de l'épée contre les autochtones, n'empêche que, quand vous arrivez avec à votre tête des capitaines, toute la haute aristocratie de ces pays-là, que vous avez du fric, des armées, et bah, forcément, on arrive à installer rapidement des comptoirs. Tandis qu'au Levant, pas du tout. Au XIXe siècle, ils se sont un peu accoquinés avec les colonies françaises, mais préalablement, pas du tout. Ils arrivaient ultra minoritaires, une toute petite goutte, et dans des comptoirs d'où ils étaient très souvent virés. Ils ne savaient pas par quelle porte entrer, s'il fallait y aller par les couches populaires, s'il fallait entrer par l'élite, s'il fallait arriver habillé en autochtone, ou s'il fallait arriver comme je suis habillé, la croix en tête. Voilà. Ça a été très compliqué. Et ils ont connu vraiment, très souvent, les orientaux étaient curieux de cette. Parce que les sagesses orientales sont au moins superficielles. Assez accueillantes, mais assez rapidement, ils sont arrivés, forcément, quand ils ont commencé à prêcher la croix, justement, ou ces choses-là, là, il y a un clivage, et ils se sont fait virer. Et on les a pris pour des satellites de l'Occident, des espions ou des hommes à intérêt économique ou politique. Voilà. Ça a été très, voilà, encore une fois, difficile. Donc, il faut se représenter ce qui devait danser dans la tête de quelqu'un qui arrivait dans des terres où les langues étaient... pour un occidental que nous sommes, a priori indigeste, pour se faire comprendre les gens du coin, enfin, bon, tout ce que vous imaginez. Et en plus, donc voilà, autant d'échecs qui a mis à très rude épreuve leur certitude et leur, bien sûr, leur foi, leur espérance. Et jetant un regard, grâce à cette vertu d'espérance, sur la croix, et en y voyant non pas la butée de l'échec, mais au contraire le tremplin de la victoire, eh bien, petit à petit, cette espérance les a convaincus qu'il ne fallait pas tenir compte des résultats humains de leurs œuvres apostoliques. Ça, c'est vraiment là, je trouve, qu'ils montrent leur supériorité. On s'entend, j'ai dit qu'ils étaient très humbles, et voilà. Il faut quand même avoir une sacrée nature et une sacrée disponibilité à la grâce pour accepter ce genre de choses, quoi. Donc l'espérance a éclairé leur intelligence, leur montrant que derrière la croix, il y a la vie, il y a la victoire, Et puis, elle a fortifié leur volonté. Voilà. J'ai été saisi par le Christ, dit saint Paul. La volonté, vous savez, c'est la capacité d'aimer en même temps que cette capacité du vouloir qui nous conduit à poser des choix, à poser des actes. Voilà, c'est la même faculté qui permet cela. Et donc, c'était des amoureux du Christ, évidemment, complètement enflammés de ce Seigneur, au point de tout quitter. Et peut-être le savez-vous, mais là encore singulièrement aux missions étrangères, on avait affaire à des garçons qui venaient de milieux modestes, pour la plupart d'entre eux. Ce qui n'était pas le cas de la Compagnie de Jésus, par exemple. Je ne mets pas l'une contre l'autre, c'est autre chose. C'était des hommes modestes et capables. Vous imaginez la santé qu'il fallait pour escompter les traversées folles de l'époque. Sachez que des cargaisons entières de jeunes missionnaires ne sont même pas arrivées à bon port et ont été torpillées, j'allais dire, en tout cas, soit par les éléments naturels, soit par les abordages de pirates. Et ils le savaient, les gars. En partant là-bas, ils n'arriveraient peut-être même pas au bout de la mission pour laquelle ils s'étaient tant et tant préparés. C'est vous dire un peu, vous voyez, l'étoffe de Ségus. Ils apprenaient dès ici, dès la France, les rudiments de ces langues complètement ésotériques pour eux, avec abnégation, etc. Donc c'était des hommes capables, si vous voulez. Et quand leurs parents voyaient partir des garçons de cette qualité, du giron familial modeste, voire très modeste, c'était évidemment un manque à gagner pour l'exploitation agricole, pour, vous voyez, l'entreprise familiale. Rien que bien humain, c'est normal. Et imaginez la volonté d'acier qu'il a fallu pour que ces garçons s'arrachent, souvent très jeunes, aux bras de leur chère mère, mais aussi de leur cher père, de leur famille. Ça a été vraiment un renoncement, un sacrifice, sachant encore une fois qu'ils n'étaient pas sûrs d'arriver à terme. Voilà. Et qu'est-ce qui a fortifié leur volonté? Parce qu'il y a quelque chose de surhumain là-dessus. Bah, c'est l'espérance. L'espérance, du reste, qui a vu également nourrir leurs pauvres parents, qui souvent étaient, on nous le dit, non seulement pauvres, mais pieux. La plupart d'entre eux étaient vraiment des familles très ferventes. Donc il n'y avait qu'à s'en prendre quand même. Donc faites gaffe. Pas trop de ferveur. Pardon. Pas d'entreprise familiale pour moi. Donc j'ai été saisi par la voix. Je crois que Jean-Guillaume y a fait allusion tout à l'heure. Non, j'ai lu le texte de la conférence il y a maintenant 2 semaines, je crois, et je confesse ne plus me souvenir de cela. Et je suis arrivé à 11h tout à l'heure. Donc j'ai pas eu 11h. Voilà. Mais sur ce passage incroyable de la deuxième aux Corinthiens, non ? Je ne sais pas qui, non ? Là, j'ai l'impression de ne m'en mettre pas beaucoup là. Je suis bien avec la parole de saint. Alors, écoutez, voilà, tant pis pour vous si vous ne l'avez pas dit, donc elle nous redite si jamais vous l'avez lu ce matin, et sinon, tant mieux. C'est la deuxième aux Corinthiens, chapitre 12, vous savez, où saint Paul fait allusion à non seulement aux révélations qu'il a eues, il fait une auto-justification comme souvent, réclamant le titre d'apôtre, il dit oui, mais moi aussi j'ai rencontré Jésus. Oui, parce que pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus. Ah ben, je l'ai vu. Je connais un homme qui, etc., a eu des révélations. Était-ce en son corps, était-ce hors de son corps, Dieu, je ne sais, Dieu le sait, blablabla, il fut ravi. Bon, tout ça, blablabla, pardon, mais bon, pas non, mais rien que bien commun. Et donc voilà, ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires, dit-il, que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe. Voilà, vous connaissez ça. Un envoyé de Satan pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Et là, c'est merveilleux. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur, pour le Christ, les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous me direz, oui, on connaît ça, l'autre apparent. Pour arriver à dire ça, il faut... Et là, c'est ce qui animait le cœur de nos martyrs. Et ce qui leur permettait de poser de tels actes de confiance et d'endurer tant et tant de persécutions, d'échecs, en restant en poste, eh bien, c'est qu'ils étaient fortifiés par cette grâce particulière, qui est l'espérance. Et en même temps, l'espérance, on le sait, est une des trois vertus théologales. C'est une vertu, ça veut dire qu'elle a, sa racine, vertu surnaturelle, elle a sa racine en Dieu, c'est une pure grâce de Dieu. Il la retire et aussitôt s'effondre le château de cartes, qui est le martyr. Et en même temps, il faut que, comme vertu, on y contribue activement. La vertu, c'est requiert une application, hein, ça s'opère, enfin, ça s'acquiert par répétition d'actes, voilà. Et donc, imaginez un peu nos martyrs qui n'accédaient pas du tout d'un coup d'un seul à cet acte suprême de témoignage rendu à Jésus-Christ. D'autant que leur martyr était rarement scellé en un instant. Précisément, quand vous regardez le film Silence, ou quand vous, même des histoires que vous connaissez par ailleurs, on sait bien qu'ils étaient soumis, et c'était tout l'enjeu d'ailleurs de ces tortures, que de les faire apostasier. Et pour bien le faire, eh bien leur faire subir des jours et des nuits de toutes sortes de joyeuseté. Voilà. Donc, il fallait d'autant plus d'espérance pour pouvoir tenir. C'est pas une minute d'espérance qu'il leur fallait, c'était... Voilà. Et donc cette espèce d'application qui commençait par des choses toutes bénignes, en fait. C'était l'enjeu de leur formation dans cette maison. C'était une maison dans laquelle, certes, la discipline était rude, bien sûr, parce que c'était une sorte de camp d'entraînement, quand même. Et on dit qu'un entraînement difficile, guerre facile, vous connaissez ça, les militaires entre vous, voilà. Eh bien, voilà, ils étaient petit à petit amenés à, un peu à renoncer à leur volonté propre. Alors, je pense qu'on en a un peu abusé, ça, dans les manuels anciens, vous savez, les amitiés particulières et la volonté propre, c'est à bannir, mon fils, ma fille. Bon, ça a été, je pense que vous en avez eu des relents, vous autres, qui êtes nos aînés. Mais il y a quelque chose de vrai, en fait, là-dedans. Petit à petit, ils ont accepté, eh bien, de se laisser faire par autre chose que leur caprice ou leur dessein personnel. Et puis, ainsi, de fil en aiguille, ils ont appris une plus grande docilité. Et, le moment venu, ils étaient prêts. Alors, vous direz, très bien, merci mon père, au revoir. Nous allons maintenant méditer sur nos tribulations de Saint-Cloud. Alors, certes, nous ne sommes pas, pour l'instant du moins, exposés à ce genre de cas extrêmes, etc., néanmoins. Le martyr nous également non pas proposé en fait, non pas seulement suggéré par Jésus, mais il est requis de nous. Alors vous imaginez bien qu'il ne s'agit pas du sacrifice sanglant que je ne vais pas qui suis-je du reste, et puis comme je ne le ferai pas en haine du Christ, ce serait même pas un martyr, donc c'est nul. Mais il y a cette autre forme de martyrios, donc de témoignage que nous devons tous rendre par, à défaut du sacrifice du martyr sanglant, par le sacrifice du martyr non sanglant, ou ce qu'on appelle encore le martyr blanc, que l'on distingue dans la spiritualité du martyr rouge. N'y voyez là aucune, aucun sadisme, ni aucune recherche de masochisme, de quelque nature que ce soit. Mais il nous est également, et vous l'avez autrement vécu que moi, pour nombre d'entre vous, et sinon tous, il nous est demandé de faire face, enfin, par le Seigneur, à des tribulations, à des épreuves, et parfois lourdes, et même très lourdes, dans lesquelles le Seigneur, ben, épreuves qui sont permises, on est d'accord, il n'est pas en train de nous jeter des hallebardes ou des trucs, bon, mais dans lesquelles il est attendu de nous la même conduite que les martyrs sanglants, ou plutôt, dans lesquelles épreuves nous pouvons avancer, tenir bon, si nous requérons aux mêmes moyens que ceux que je viens d'évoquer pour les martyrs du sang. Ce renoncement des petites choses, cette conscience de sa propre fragilité, du fait que vraiment Seigneur, sans toi je ne peux rien, cette fréquentation assidue du Seigneur Jésus, le martyr des martyrs, et aussi de tous les saints qui se sont adjoints à cette offrande totale de soi, vous voyez, la communion des saints, en d'autres termes, rien de nouveau, je ne suis pas venu avec dans ma besace des articles à vous proposer dans une vente confidentielle et donc au rabais. Non, c'est toujours... Voilà, c'est cette comment dire, ce... oui, nous sommes, non, nous ne pouvons pas esquiver le martyre. Voilà. Oui, nous sommes appelés à être des témoins, parce que, on le sait bien, mais je pense que c'est bon, un jour de récollection, je pense qu'on n'apprend pas grand-chose, enfin en tout cas de ma bouche, mais qu'on récolte justement, on ramasse tout ce que l'on sait déjà et on le soumet un peu dans le calme, un peu, venez ici à l'écart et reposez-vous, dit le Seigneur à ses disciples, et on laisse passer de la tête au cœur là, tout ce matériau qui nous est coutumier, du moins au plan thématique, au plan intellectuel. Et donc, il nous faut sans cesse ruminer, je crois, ce sort qui a été flagrant, éclatant dans la figure des martyrs du sang. Si vous voulez, l'intérêt de ces martyrs, c'est qu'ils mettent en évidence les règles de fonctionnement, les moyens que nous autres, à notre petite échelle, devons mettre en œuvre. Voilà. Et quand nous allons passer dans la salle des martyrs, j'espère que ça nous fera cet effet. Nous ne nous dirons pas, c'était il y a bien longtemps, pour des gens extraordinaires, parce qu'on retomberait dans le piège du début, surhomme ou héros, mais ce sont des gens comme nous, du même bois, avec leurs forces, leurs faiblesses, mais en revanche qui se sont totalement fiés à l'œuvre de Dieu en nous. Et leur fécondité apparemment compromise de leur vivant, la plupart d'entre eux sont morts sans avoir vu le fruit de leur travail, autre est le semeur, autre est le moissonneur, toute parole dont on a l'habitude, mais concrètement, voilà. Et pour autant, dont nous savons aujourd'hui, a posteriori, toute la fécondité. Voilà. Je termine, parce qu'il faut bien quand même que je me taise, j'ai bien compris, avec c'est un propos qui est rude, hein, mais qui est beau en même temps, de Bernanos, encore. Voilà ce qu'il dit. Toujours dans Nos Amis les Saints, décidément. Il y a la procure pas très loin. Bon. Ah si, en plus, ce bouquin-là, vraiment, je n'ai aucune action là-dedans, ça s'appelle Les Prédestinés, paru en 2023. C'est un petit compendium, enfin, c'est un petit écrit dans lequel on trouve des textes décisif de Bernanos au sujet de la sainteté. Vous avez vu l'épaisseur, le prix je vous donne, 8,50, TTC. Okay. Voilà, magnifique, ça se glisse dans le sac à main, dans la poche. Voilà. Donc il y a Jeanne, Saint-Hérolapse, Nos Amis des Saints, Frère Martin, c'est Martin Luther. Ça s'appelle Les Prédestinés. C'est pas un titre de Bernanos, mais. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment, franchement, c'est de la nourriture solide. Notamment sur le procès de Jeanne, et c'est génial. Alors, bon, évidemment, âme anglophile, ça peut se tenir. Mais voilà. Bon, on continue. Bon. Alors, et voilà ce qu'il dit. Mais il est en ce moment dans le monde, au fond de quelque église perdue, ou même dans une maison quelconque, ou encore au tournant d'un chemin désert, tel pauvre homme qui joint les mains, et du fond de sa misère, sans bien savoir ce qu'il dit ou sans rien dire, remercie le bon Dieu de l'avoir fait capable d'aimer. Il y a quelque part ailleurs, je ne sais où, une maman qui cache pour la dernière fois son visage au creux d'une petite poitrine qui ne battra plus. Une mère près de son enfant mort qui offre à Dieu le gémissement d'une résignation exténuée. Comme si la voix qui a jeté les soleils dans l'étendue, ainsi qu'une main jette le grain, la voix qui fait trembler les mondes, venait de lui murmurer doucement à l'oreille « Pardonne-moi ».
Bernanos.
Efficace. Vous voyez, alors ne le lisez pas dans le train ni dans le métro, parce que du coup, vous allez avoir les larmes aux yeux, ça fait ridicule tout de suite. Voilà. « Pardonne-moi, un jour tu sauras, tu comprendras, tu me rendras grâce. » Mais maintenant, ce que j'attends de toi, c'est ton pardon. Pardonne. Cela, cette femme harassée, ce pauvre homme, se trouve au cœur du mystère, au cœur de la création universelle, et dans le secret même de Dieu. Que vous en dire? Le langage est au service de l'intelligence. Et ce que ces gens-là ont compris, ils l'ont compris par une faculté supérieure à l'intelligence, bien qu'elle ne soit nullement en contradiction avec elle. Ou plutôt, par un mouvement profond et irrésistible de l'âme qui engageait toutes les facultés à la fois. qui engageaient à fond toute leur nature. Oui, au moment où cet homme, cette femme acceptaient leur destin, s'acceptaient eux-mêmes humblement, le mystère de la création s'accomplissait en eux, tandis qu'ils couraient ainsi sans le savoir tout le risque de leur conduite humaine, ils se réalisaient pleinement dans la charité du Christ, devenant eux-mêmes, selon la parole de saint Paul, d'autres Christ. Bref, ils étaient des saints. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'ajouter grand-chose. C'est merveilleux, et c'est ça aussi, le martyr non-sanglant dont j'évoquais à l'instant, dans les conditions que chacun nous avons à affronter un jour ou l'autre, révoltantes, éprouvantes, voilà. Mais qui, grâce à ce don incroyable de la petite fille Espérance, de ce que le Seigneur qualifie lui-même de la plus merveilleuse de ses grâces, nous sommes comme les martyrs, dont nous allons voir les effets dans un instant, méditer la geste, eh bien, nous serons capables de faire la même chose. Ce que Dieu a fait à travers eux, il peut le faire à travers nous si nous y sommes disposés tant soit peu. Amen.
Merci au Père Vincent de nous avoir introduit dans cet après-midi, pour le contenu qu'il a apporté, pour l'émotion qu'il a accepté aussi de nous communiquer, l'émotion de ces textes, notamment de Bernanos. Et donc la suite, c'est que donc, nous sommes invités à être situés sous l'Église.